du début de la royauté d'Israël. Alors je lis le chapitre en entier, c'est un peu comme la dernière fois, il y a deux semaines. La lecture est un peu longue et vous aurez quelques versets normalement qui sont affichés de cette lecture là. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour l'investir de la royauté. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, l'a pris, il était encore en Égypte, où il s'était enfui pour échapper au roi Salomon. Jéroboam habitait en Égypte. On le fit appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël arrivèrent et dirent à Roboam, « Ton père a rendu notre joug bien dur. Toi, maintenant, allège le dur esclavage que ton père nous a imposé et le joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. » Il leur dit, « Allez et revenez me voir dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam prit conseil des anciens qui s'étaient tenus au service de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Ils lui dirent, « Si aujourd'hui tu te fais le serviteur de ce peuple, si tu te mets à leur service, si tu leur réponds bien, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam ne tint pas compte du conseil que lui donnaient les anciens. Il prit conseil des jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient à son service. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage ? Allège le joug que ton père a mis sur nous ?» Les jeunes gens qui avaient grandi avec lui lui dirent, « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, toi, allège-le-nous. » Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Mon père vous a imposé un joug pesant. Moi, j'alourdirai encore votre joug. Mon père vous a corrigé avec des fouets. Moi, je vous corrigerai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple se présentèrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez me voir dans 3 jours. Le roi répondit avec dureté au peuple. Il ne tint pas compte du conseil que lui avaient donné les anciens, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant ? Moi, j'alourdirai encore votre joug. Mon père vous a corrigé avec des fouets ? Moi, je vous corrigerai avec des scorpions. » Le roi n'écouta pas le peuple. La tournure prise par les événements venait du Seigneur pour réaliser la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Aïa de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple fit répondre au roi, « Quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons pas de patrimoine avec le fils de Jessé. À ses tentes, Israël. Maintenant, regarde ta maison, David. » Et Israël s'en alla à ses tentes. Quant aux Israélites qui habitaient les villes de Juda, Roboam régna sur eux. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était intendant des corvées, mais tout Israël le lapida, et il mourut. Le roi Roboam réussit à monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est révolté contre la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils le convoquèrent devant la communauté, ils l'investirent de la royauté sur tout Israël. Il n'y eut que la tribu de Juda, elle seule, pour suivre la maison de David. Et donc là, entre parenthèses, nous assistons à la séparation du royaume d'Israël en 2 royaumes, le nord et le sud, où Israël et Juda. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 guerriers d'élite, pour qu'ils combattent la maison d'Israël, afin de ramener le royaume sous l'autorité de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu parvint à Shemaïa, l'homme de Dieu, « Dis à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, ainsi qu'au reste du peuple. Ainsi parle le Seigneur, vous ne vous mettrez pas en campagne, vous ne ferez pas la guerre à vos frères, les Israélites. Que chacun de vous rentre chez lui, car c'est de moi que cela vient. » Ils écoutèrent donc la parole du Seigneur, ils s'en retournèrent conformément à la parole du Seigneur. Jéroboam bâtit Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm et il y habita. Puis il en sortit et il bâtit Pénouël. Jéroboam se dit, « Maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison du Seigneur. Le cœur de ce peuple reviendra à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et reviendront à Roboam, roi de Juda. » Après avoir pris conseil, le roi fit 2 taurillons d'or et dit au peuple, « Vous êtes assez montés à Jérusalem. Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. » Il en plaça un à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là un péché. Le peuple alla devant l'un d'eux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il nomma prêtre n'importe qui, même ceux qui n'étaient pas des fils de Lévi. Jéroboam fit une fête le 15e jour du 8e mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Bethel, en sacrifiant au taurillon qu'il avait fait. Il installa à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait faits. Il monta à l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de sa propre initiative. Et il fit une fête pour les Israélites, et il monta à l'autel pour offrir de l'encens. Voilà donc la lecture extensive de ce chapitre qui voit en fait la partition du royaume en 2 royaumes, le royaume du sud, avec Jérusalem comme capitale, et le royaume du nord, avec Sichem, comme capitale. Donc Jérusalem, c'est dans la partie bleue que vous voyez là, c'est donc la tribu de Juda qui est alliée à quelques Lévites aussi, puisqu'on est à Jérusalem. Donc les Lévites, c'était la tribu de Lévi qui avait pour charge le culte dans la nation d'Israël. Donc les Lévites, la plupart des Lévites, disons, et puis la tribu de Juda est au sud avec capitale Jérusalem, c'est en bleu. Et le royaume qu'on appelle le royaume d'Israël, finalement, en tout cas ce qu'il en reste, est au nord, en, je sais pas quoi, orange peut-être, vous le voyez là, avec capitale Sichem, qui est juste au sud de Samarie, et avec les 10 autres tribus d'Israël. Alors on va déjà commencer par regarder ce personnage de Roboam. Le roi Salomon était mort, et donc son fils Roboam est amené à prendre le trône. Et le souvenir qui est laissé par Salomon était celui d'un roi difficile. Vous savez, on en fait souvent des tonnes sur Salomon, on se dit « Ah, là, là, quelle sagesse !» Mais c'était aussi un roi difficile. Mais le peuple avait partagé sa vision. Les choses avaient été difficiles, les gens travaillaient et travaillaient encore sous la royauté de Salomon, mais ils avaient partagé sa vision. Et le roi était mort. Alors entre en scène Roboam, fils de Salomon, successeur naturel, qui commet rapidement quelques erreurs fondamentales. Et nous pouvons justement regarder ce qu'on appelle son leadership en bon français à travers les textes bibliques. Ici, donc, dans le premier livre des rois, au chapitre 12, Roboam prend la relève de son père Salomon et il commence vraiment bien. Il va et cherche conseil auprès des aînés. Les mêmes personnes qui avaient conseillé son père avant lui. Et jusqu'ici, tout va bien. Mais c'est ce qu'il fait avec les conseils reçus qui est inquiétant. Les choses étaient assez difficiles à l'époque, donc, et le peuple d'Israël était en train de perdre la vision du roi Salomon. Les anciens savaient que Roboam n'était pas le même homme que son père Salomon. Ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que les gens suivent Roboam comme ils avaient suivi auparavant Salomon. Tel père, tel fils est un beau slogan, mais qui ne se vérifie pas toujours. Et donc, la relation de Roboam avec les gens de son peuple est teintée notamment par sa propre responsabilité, sa propre personnalité. Et c'est pareil pour nous. Il n'y a pas de différence vraiment. Ma relation avec une personne en particulier dans cette assemblée n'a pas exactement la même couleur que la vôtre avec cette même personne. Cette relation dépendra de nos personnalités respectives, de notre histoire commune, de notre histoire non commune même, qui a marqué notre vie avant que l'on se rencontre, de nos centres d'intérêt favoris, de nos projets personnels, etc. Sommes-nous proches? Sommes-nous éloignés? Jusqu'à quel point? Roboam, lui, cherche ses premiers avis auprès des anciens qui s'étaient tenus au service de Salomon, son père, pendant sa vie, et ceux-ci lui répondirent, « Si aujourd'hui tu te fais le serviteur de ce peuple, si tu te mets à leur service, si tu leur réponds bien, ils seront pour toujours tes serviteurs. » C'est au verset 7, je le répète. « Si aujourd'hui tu te fais le serviteur de ce peuple, si tu te mets à leur service, si tu leur réponds bien, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Ça, c'est le conseil des anciens adressé à Roboam. C'est une formule simple, mais solide, tout à fait honnête et digne d'être appliquée. S'il faisait preuve de bonté, et s'il avait lui-même un cœur de serviteur pour le peuple l'aimerait et le servirait éternellement. Donc être un artisan de paix, voilà ce que les anciens proposent à Roboam, fils de Salomon. Mais on sent bien qu'après que les anciens lui ont prodigué leurs conseils, Roboam est déjà prêt à les refuser. Roboam n'est pas du tout convaincu par les arguments des anciens. Probablement ne sait-il pas si être un artisan de paix entre dans le cahier des charges d'un roi. Et il cherche un deuxième avis. Et il n'y a rien de mal en soi à rechercher un deuxième avis. Mais en rejetant l'opinion des anciens qui avaient servi son père, il a rejeté en même temps le style de leadership de Salomon, son père, et de David, son grand-père, David qui était le père de Salomon. Bien que ni David ni Salomon aient été parfaits, chacun a montré un engagement envers Dieu et de la compassion pour le peuple de Dieu. Mais Roboam, lui, a montré peu d'intérêt pour l'un comme pour l'autre. Il était plus intéressé par sa position et l'exercice de son autorité qu'il ne l'était par la construction d'une communauté dans laquelle les gens pourraient vraiment être le peuple de Dieu. Une communauté dans laquelle les gens pourraient vraiment être ce peuple-là. Le peuple choisi de Dieu. Ainsi, Roboam questionne ses camarades. Ces hommes sont bien davantage que les anciens susceptibles de dire à Roboam ce qu'ils pensent déjà. Si vous êtes confortés, rassurés, tranquillisés dans vos opinions, demandez à ceux qui vous ressemblent. En se tournant vers ceux qui a priori pensent comme lui, les jeunes donc, de sa génération, Roboam montre qu'il n'a demandé des conseils que pour montrer qu'il sait demander et prendre en compte les avis extérieurs. Mais là, il a choisi ses interlocuteurs de manière bien spécifique, bien particulière. Il a choisi ses pairs, P-A-I-R-S, presque ses égaux dans sa génération, pas dans sa charge royale, bien sûr. Et qu'est-ce que ces jeunes hommes, maintenant, avaient à offrir? Quels conseils constructifs et peut-être novateur pouvait-il formuler? eh bien, ils ont proposé une approche qui ferait de Roboam un homme plus redouté encore que Salomon son père. Le problème, c'est qu'en suivant les conseils des jeunes hommes, Roboam place le jeune royaume d'Israël sur la voie de la division et de la destruction pour les 400 prochaines années. Le jeune royaume d'Israël, parce que souvenez-vous que Roboam n'est que le quatrième roi de la nation après Saül, David et Salomon, Roboam aurait dû faire preuve de plus de sagesse. Il aurait dû rechercher la paix dans le royaume. Il aurait dû écouter ce que le peuple disait. Toutefois, je ne dis pas que les dirigeants devraient toujours conduire les affaires par le vote populaire, ce n'est pas mon propos, ni qu'ils devraient systématiquement accorder au peuple ce que celui-ci demande. Mais un dirigeant a besoin de sagesse pour savoir que parfois, ce que les gens veulent, c'est effectivement ce qui est le mieux pour eux et pour le bien commun. Quand on recherche des conseils, s'il faut, bien sûr, juger les conseils à la lumière de la parole de Dieu révélée. Y a-t-il dans ces conseils quelque chose qui serait en contradiction avec la parole? Eh bien, il faut pouvoir discerner aussi qui est la personne qui donne son avis. Quand vous lisez un commentaire biblique, par exemple, l'avertissement que l'on pourrait vous donner serait celui-ci. Avant d'accepter le contenu d'un tel livre, et je parle d'un commentaire, mais ça pourrait être tout autre chose aussi, tout autre livre, essayez d'en savoir un peu plus sur la personne qui l'a écrit, sur ses origines, sur ses œuvres précédentes, et ce qu'il pense sur d'autres sujets aussi. Mais pour revenir à notre histoire, le plus triste là, c'est que, en raison des choix insensés de Roboam, les tribus du nord d'Israël, ce sont donc les 10 autres tribus, autres que Juda et les Lévites d'ailleurs, ont rejeté Roboam comme roi, et ce faisant, ils ont rejeté la maison de David, roi d'Israël, et la lignée familiale qui va produire leur Messie. Et vous vous rendez compte des conséquences de cette erreur de leadership qui va conduire 10 tribus d'Israël sur les 12 à rejeter la maison de David. Les 10 tribus qui sont là au nord sur la carte. David que l'on trouve quand même dans la lignée généalogique de Jésus. Ce n'est pas la première fois que le nord et le sud ont connu des désaccords, mais cette fois c'est irréparable. C'est donc une scission. Alors maintenant, nous allons tourner notre attention vers l'autre leader dans cette histoire qui est Jéroboam, plus brièvement. Avant de nous pencher sur son leadership en détail, il faut dire que quelque chose semble assez particulier chez lui. Il se trouve en Égypte quand cette histoire arrive. Et donc nous lisons au verset 3 qu'on a dû l'envoyer chercher. Pourquoi est-il là-bas ? Jéroboam a reçu de Dieu la promesse qu'il régnerait sur 10 tribus en raison de l'infidélité de Salomon, parce que les Israélites se prosternaient devant des divinités païennes. Donc, Roboam, le fils de Salomon, n'allait recevoir, lui, que 2 tribus. Il n'était pas question, quand même, de le priver de tout, parce que le Messie allait être de la lignée de David par Salomon, et donc par Roboam aussi. Salomon ayant entendu cela, cherche, vous le lirez dans le chapitre qui précède, chapitre 11, Salomon cherche à faire mourir Jéroboam, lequel donc fuit en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Malgré les promesses de Dieu, Jéroboam manque de foi. Il est véritablement incapable de faire confiance à Dieu. Et au moment où la prophétie va s'accomplir, Jéroboam ne croit pas que Dieu a la situation bien en main. Écoutez donc comment il commence son règne. Jéroboam n'a pas confiance, ça c'est une affaire entendue. Tout d'abord, il ne croit pas que Roboam restera à Jérusalem. Il construit une nouvelle capitale, qui s'appelle donc Sichem, ce qui semble assez justifié, mais quand on regarde de plus près le langage qui est utilisé, et les autres utilisations du verbe construire, construire la capitale donc, qui sont utilisés, donc qui est utilisé ce verbe-là de construire autour de ce texte, On pourrait tout aussi bien utiliser le verbe fortifier. De toute façon, Sichem existe déjà. Et il s'agit de nouvelles constructions. Peut-être donc des fortifications. Et que dire de Pénouël aussi, qu'il construit en deuxième après Sichem. Pénouël aussi a été fortifié de sorte que Roboam serait incapable de battre Jéroboam dans ses murs. Jéroboam n'a pas confiance en Dieu. Il ne croit pas non plus que le peuple d'Israël lui resterait fidèle. Peut-être essaierait-il de le tuer si les circonstances devaient changer. Jéroboam n'a pas confiance en Dieu, non vraiment. Il ne croit pas que Dieu l'a choisi comme leader. Et il craint que le royaume revienne tout entier à la maison de David par la personne de Roboam, petit-fils de David. Et il fait toujours référence à Roboam comme étant le maître du peuple. Jéroboam n'a pas confiance en Dieu. Ses 10 tribus étaient encore sous la loi de Moïse, autant que les tribus du sud. Ils avaient encore à se déplacer eux-mêmes pour offrir des sacrifices dans la maison de l'Éternel à Jérusalem. À Jérusalem, de l'autre côté de la frontière, je pourrais dire. Jéroboam n'est pas prêt à laisser cette situation à Dieu parce qu'il veut maintenir son influence sur son peuple. Donc, comme Roboam, Jéroboam demande conseil. Et la seule différence, c'est que Jéroboam est encore plus fou que Roboam, si c'est possible. Le texte dit que Jéroboam eut l'idée de faire deux veaux d'or, verset 28 pour ceux qui ont leur Bible. C'est là que réside la chute de Jéroboam. Vous voyez, pour Jéroboam, le culte de Dieu ne devient rien de plus qu'un contrôle politique. Il met la religion au service de l'État. Il ne peut pas supporter l'idée que des gens partent pour le temple de Jérusalem, de l'autre côté de la frontière, pour adorer. Alors, il construit des lieux de culte nouveaux dans le royaume du Nord. Or, le roi ne peut pas être en même temps roi et sacrificateur. Mais Jéroboam, qui a le pouvoir politique, construit deux veaux d'or qui sont le point central du nouveau culte. Puis, dans une dernière tentative pour contrôler le peuple du royaume du Nord, ou bien pour les satisfaire, Jéroboam crée une fête le 15e jour du 8e mois, une fête, nous dit-on, qu'il crée de sa propre initiative, une fête de sa propre fabrication, et il conduit Israël dans la foi nouvelle qu'il crée. Nous avons donc ici un nouveau roi qui met en place une nouvelle religion avec ses propres symboles, ses propres prêtres et sa propre fête. Eh bien, combien de croyants connaissez-vous qui ne se sentent pas le besoin d'aller à l'église ou qui choisissent ce qu'ils veulent croire en laissant le reste aux autres? Nous aimons tous Dieu qui nous aime et qui est prêt à mourir pour nous. Mais pas beaucoup le Dieu qui juge et condamne ou qui attend que nous lui obéissions en toute chose. Alors, cet aspect-là, nous le rejetons. La religion de Jéroboam, c'était une religion de convenance, comme on peut en trouver encore aujourd'hui même dans notre société ou dans nos milieux en particulier. L'histoire de Jéroboam, c'est celle d'un homme bien qui a mal tourné. Il a protesté contre l'abus de pouvoir de Salomon pour être lui-même par la suite séduit par ce même pouvoir. C'était un homme dont la préoccupation pour le peuple s'est transformée jusqu'à ce qu'il ne se préoccupe plus que de lui-même. Et au lieu de mener son peuple à dépendre de Dieu, il l'a conduit à dépendre de lui. À cause de son sentiment d'insécurité, donc, il ouvre la voie à la destruction de son royaume, qui plus tard sera envahi et détruit par les Assyriens. À cause de son sentiment d'insécurité. Dans Jéroboam et Roboam, nous pouvons voir deux chefs de file de Dieu qui sont incapables de compter sur la protection de Dieu, et à la fin, bien les deux chutent lourdement. L'une des leçons que nous apprenons de l'histoire de Roboam, c'est la nécessité d'abord de transmettre la foi en Dieu soigneusement et délibérément d'une génération à l'autre. Vous voyez, David était la nouvelle ère de l'histoire. Les Écritures montrent qu'il était un homme très dévoué à Dieu. Il a formé une nation à partir d'un groupe plus ou moins organisé de tribus, et il en a fait un peuple pour Dieu. Salomon hérita de ces personnes-là en recevant un royaume stable. Et avec l'aide de Dieu, il a tout simplement eu à organiser la nation. Mais Salomon n'a pas réussi à maintenir la nation fidèle à Dieu et donc à semer les graines de l'échec du royaume. Malheureusement, Roboam, fils de Salomon, a montré peu d'attention pour Dieu ou pour la nation qui, quand il en a pris la direction. Que ce soit dans le pays, dans les organisations, les entreprises, les églises ou les familles, nous devons être conscients du risque de devenir comme Roboam. Héritons-nous tout simplement les traditions de nos prédécesseurs, nos parents ou d'autres, ou les faisons-nous nôtres en recherchant Dieu de tout notre cœur? Nos enfants sont-ils tirés en avant par notre foi à nous, qu'ils voient en exercice? Sont-ils enseignés à trouver puis à garder une foi chrétienne stable, une relation permanente avec Dieu? Est-ce que c'est cela que nous montrons et démontrons aux générations futures? Se sentent-ils le besoin de marcher comme leurs parents, avec Dieu, ou essaient-ils de le faire par leurs propres moyens et de trouver leur chemin personnel? Est-ce qu'ils cherchent à vivre sans les conseils et la sagesse d'une assemblée? Leur quête d'indépendance est-elle constructive ou destructive? En Jéroboam, je vois une personne de Dieu qui par ses doutes et ses peurs, n'est plus en mesure de faire confiance à Dieu. Alors, il change les choses de Dieu en quelque chose de beaucoup plus agréable au goût, de beaucoup plus sécurisant pour lui, qui finira au bout du compte par se retourner contre lui. Alors, qu'est-ce que ce passage a à voir avec nous aujourd'hui? Eh bien, d'abord, je pense qu'il y a un avertissement très fort adressé à tous les responsables au sens large que l'on peut trouver dans les églises. Nous œuvrons pour le royaume de Dieu. Nous ne construisons pas nous-mêmes le royaume. Assurons-nous que notre confiance est bel et bien fondée sur Dieu, d'abord et avant tout, et qu'elle ne repose pas sur nos capacités, sur nos personnalités et parfois même sur nos peurs. Et pour le reste d'entre nous, nous sommes tous d'une façon ou d'une autre responsables quand même d'autres personnes, parce que nous sommes des êtres qui vivent en relation. Quel héritage laissons-nous à ceux à qui nous montrons l'exemple que nous le voulions, nous, par notre vie? Les conduisons-nous dans une solide relation de confiance avec Dieu? Eh bien, notre défi consiste à prendre modèle sur Jésus, et non pas, loin de là, sur Roboam ou sur Jéroboam. Nous serions mal inspirés d'agir dans cette deuxième direction. Mais prendre modèle sur Jésus, est assurément la direction à prendre pour nous tous. Jéroboam et Roboam auraient connu bien plus de succès, et nous connaîtrons nous-mêmes aussi bien des succès si nous suivons l'exemple de Jésus. Dans son ministère, il a constamment montré le Père. Même sa confiance n'était pas fondée sur lui-même, mais sur son Père, auquel il déclara dans le jardin de Gethsémané, à l'orée de son ministère, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors, véritablement, que dans tout ce que nous entreprenons, dans notre vie entière, nous sachions mettre en avant et accomplir la volonté de notre Père avant toute autre chose. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, à la lecture de ces textes que nous pouvons juger peut-être complexes, difficiles, qui contiennent, selon nous, beaucoup de rebondissements et de zones sombres, nous pouvons nous retirer de ta parole et simplement continuer notre vie sans aller voir, regarder, explorer ce que ta parole nous révèle et combien est grande cette richesse que tu nous as léguée. Aujourd'hui, Seigneur, ta parole nous enseigne. Nous avons vu simplement par quelques faits encore cette histoire de famille, comme nous en trouvons beaucoup, avec David, Salomon et finalement Roboam. Aucun d'eux n'a été parfait. Nous connaissons l'histoire de David, un peu celle de Salomon, et beaucoup moins peut-être celle de Roboam, mais tu nous enseignes, Seigneur, par ces histoires que vraiment nous devons chercher ton regard des yeux, nous devons nous tourner vers toi. Notre préoccupation, Seigneur, est celle de participer à l'œuvre que tu nous as donnée, et non pas à construire cette œuvre par nos propres capacités, par nos propres désirs, limités quelquefois par nos propres peurs qui surmontent, qui deviennent plus importantes, plus prégnantes que notre foi que nous avons en toi. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes ces fois où nous avons voulu avancer en solitaire sans te demander, Seigneur, ton conseil, ou en rejetant le conseil que tu nous avais indiqué. Nous voulons te redire notre confiance, Seigneur, et nous te prions pour que tu nous montres, au moment même, Seigneur, où nous nous éloignons de toi et de tes conseils, que nous faisons fausse route. Seigneur, donne-nous, montre-nous le chemin, comme David, d'ailleurs, le dit au psaume 139. Montre-nous le chemin vers l'éternité. Redresse notre voie, Seigneur, et que nous puissions toujours agir dans toutes nos responsabilités pour la gloire de ton nom, pour le bien des uns et des autres et de ton Église qui est en construction aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions. Merci pour ton amour et ta justice, Seigneur. Nous te disons notre confiance. Amen.